dans un prochain podcast, d'essayer de comprendre justement l'enjeu pour ces industriels et toutes les solutions qu'ils mettent en œuvre, les pistes qu'ils étudient. Là, on est vraiment dans le concret de la transition écologique. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
RTL, il est 1h. 24 heures d'info, Julia Van Elst.
À la une, un dénouement dans l'affaire Kenji Girac. Le chanteur a changé sa version. Il dit maintenant avoir simulé un suicide après une dispute avec sa femme qui menaçait de le quitter. Longue conférence de presse du procureur de Mont-de-Marsan qui précise que lors de son passage à l'acte, le chanteur était fortement alcoolisé et positif à la cocaïne. Alors simulation ratée ou réelle tentative de suicide? En tout cas, l'enquête devrait être classée sans suite puisque ces deux motifs ne relèvent pas du pénal. Nous sommes à 3 mois des Jeux Olympiques et les mesures de sécurisation de la cérémonie d'ouverture se précisent. L'aménagement des quais de Seine commencera le 17 juin. Pour les ponts, ce sera à partir du 15 juillet. Le 18 juillet, donc une semaine avant la cérémonie d'ouverture, il ne sera plus possible de circuler dans la zone rouge, sauf dérogation. Et le périmètre de protection antiterroriste sera également étendu aux immeubles en bord de Seine, annonce du préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Les JO toujours et pour les conducteurs du métro et du RER qui travailleront pendant les Jeux, une prime de 1600 euros leur est proposée par la RATP. Accord trouvé entre les syndicats et la direction de l'entreprise. Pour les agents de la SNCF, les négociations sont toujours en cours. À l'étranger, les États-Unis commencent à construire un port temporaire et une jetée en bord de mer à Gaza. Objectif que des navires ou des civils puissent déposer des cargaisons d'aide humanitaire et soulager ainsi la population gazaoui menacée de famine. Et puis aux États-Unis, 7 ans après la naissance du mouvement MeToo, la cour d'appel de New York annule la condamnation d'Harvey Weinstein pour viol et ordonne un nouveau procès. Pour la juridiction, des erreurs de procédure ont été commises durant le très médiatisé procès en 2020. Au terme duquel l'ancien producteur de cinéma avait été condamné à 23 ans de prison. Il avait remporté la Palme d'Or à Cannes en 2008 avec son film Entre les murs qui racontait le quotidien d'une classe d'un collège parisien. On apprend la mort de Laurent Cantet, le cinéaste était malade, il était âgé de 63 ans. En sport, un mot de tennis, Rafael Nadal se qualifie pour le deuxième tour du tournoi de Madrid. C'est la dernière fois que le champion de 38 ans y participe. Rafael Nadal a expédié l'américain Darwin Blanche, âgé de tout juste 16 ans, en 2-7, 6-1, 6-0. Il affrontera au prochain tour l'Australien Alex de Minaur. La météo, le temps se dégrade. Au nord, un ciel perturbé, souvent nuageux avec des averses. Seul le pourtour méditerranéen sera épargné avec du soleil et du vent. Les températures, elles remontent. Pas de gelée le matin. L'après-midi, il fera jusqu'à 14 degrés au nord et 19 degrés au sud. Et pour finir, les courses. Départ à Vincennes à 20h15. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 5, le 10, le 3, l'As, le 9, le 11. 11 et le 8, et puis l'outsider de RTL, c'est le 3, et il s'appelle Galion.
RTL, 24 heures d'info. RTL, jour J, avec Flavie Flamand, la rediffusion.
L'actualité faite de jour J, on vous les raconte chaque soir sur RTL. Le phénomène Indochine, c'est tout de suite. Merci d'être fidèle à jour J, que vous écoutez sur RTL ou en podcast.
Je ne comprends pas. Le phénomène, je n'arrive pas à l'expliquer. Il y a quelque chose de magique, de métaphysique, de don de Dieu. Je n'en sais rien. Voilà, il se passe quelque chose d'inexplicable qui est inexplicable.
Cela fait 40 ans, oui 40 ans, que le groupe Indochine trace son chemin dans l'époque et dans le cœur des Français. Indochine parle à tous, les jeunes, les vieux, les différents, les rejetés, les bourgeois, les ouvriers, tous, pourvu qu'ils aient une sensibilité au monde, à l'image de son leader Nicolas Sirkis. Pourtant, à une époque, d'aucuns les a dit ringards, démodés, voire morts. Force est de constater qu'ils se sont bien trompés. Le phénomène Indochine, c'est tout de suite avec nos invités. Et ils sont ici avec moi. Jean-Éric Perrin, bonsoir.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu sur RTL, merci d'être avec nous. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, vous, sur Indochine.
Quatre, je crois.
Ouvrages, dont le dernier en date, c'est l'intégrale Indochine aux éditions EPA. À vos côtés ce soir, Laurent Allen-Caron. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Flavie.
Merci d'être là. Vous signez un documentaire que l'on peut retrouver en replay sur France.tv, qui a été diffusé sur France 3. Indochine, une révolution musicale. Alors messieurs, je dois vous remercier l'un et l'autre, car grâce à vous, en préparant cette émission, j'ai découvert Indochine. À l'époque, en fait, moi j'écoutais plutôt Jean Ferrat chante Aragon, car je recherchais du texte. Et en fait, j'avais l'impression que dans le groupe Indochine, il n'y avait pas de texte Jean-Éric Perrin. Et je me suis trompée, moi aussi. Parce qu'en fait, le succès d'Indochine repose justement sur des musiques que l'on connaît tous, hyper entraînantes, mais aussi sur des textes qui, je le disais, parlent au cœur des Français.
Oui, c'est surtout des textes qui sont assez cryptiques, puisque Nicolas a une écriture qui lui est très personnelle, qui est raillée souvent par beaucoup de gens, parce qu'effectivement, on peut y trouver des fautes de syntaxe parfois, mais peu importe. Et en fait, ces textes contiennent des sortes de messages un peu codés que comprennent les fans d'Indochine. Ouais. De cette manière-là, on a l'impression vraiment que le chanteur s'adresse à eux personnellement. Et c'est ce qui a permis de solidifier, d'une certaine manière, le rapport très étroit et très solide entre les fans d'Indochine et le groupe depuis un peu plus de 40 ans maintenant.
Voilà, et je m'adresse à ceux qui sont passés à côté du phénomène Indochine comme moi pendant très longtemps, en leur disant que ce soir, on va justement revenir sur des grands succès d'Indochine et on va tenter de décrypter ensemble ce que veut dire Nicolas Sirkis. Comment est-ce que vous pourriez vous décrire, Laurent Allen-Caron, le groupe Indochine et Nicolas Sirkis qui a participé à votre documentaire?
Oui, il a participé et je l'en remercie encore ici. Comment le décrire? En fait, c'est un groupe incroyable. C'est un groupe qui a commencé il racontait des histoires de marge, en fait, essentiellement. Ouais. Et aujourd'hui, c'est devenu le premier groupe de rock français. Donc, c'est absolument incroyable. C'est cette histoire-là qu'on a essayé de retracer dans le doc. C'est un groupe très fort, avec des textes, comme vous le disiez, très forts. Troisième sexe, c'est incroyable quand on y pense. Mmh. Mmh. C'est un texte, on comprend pas au début trop ce qu'il dit. Et d'ailleurs, il y a une séquence dans le doc où on voit les fans de Suède qui chantent sans comprendre ce qu'ils disent.
Et
en fait, c'était aussi ça le doc, c'était se replonger dans les chansons, comprendre ce qu'il voulait dire à chaque fois. Et c'est vrai que c'est très fort.
Un phénomène. Et puis aussi, Jean-Éric Perrin, une histoire incroyable. Un lien vraiment particulier avec le public. C'est-à-dire que les concerts d'Indochine ne sont pas des concerts, en fait. Ce sont des moments de communion, je dirais.
Il y a une vraie histoire qui est très longue entre ce public qui est comme une armée, en fait, qui sont des espèces de combattants, et ce groupe, et qui est en lien, en fait, avec la période, justement, qu'on considère comme la période un petit peu off d'Indochine, c'est-à-dire le moment dans les années 90 où le groupe, après ses succès phénoménaux des années 80, après donc les grands tubes, l'aventurier, troisième sexe, etc., sont passés un petit peu dans l'ombre. Mais en fait, les fans du groupe, qui étaient moins nombreux qu'aujourd'hui, c'était pas ridicule. Enfin, on n'est pas passé, parce qu'on a tendance à dire effectivement que le groupe est passé des hauteurs du top 50 au tréfonds de l'anonymat. Et en fait, dans cette période un petit peu intermédiaire entre les deux grosses périodes de succès, le groupe remplissait quand même les salles. Alors effectivement, il remplissait pas le Stade de France, qui d'ailleurs n'était pas encore construit, mais il y avait quand même, quand ils jouaient, quand ils étaient en tournée, les salles étaient quand même pleines, dans des salles disons de capacité moyenne, de plusieurs centaines de personnes. Les gens qui étaient là encore avaient l'impression d'être plus soudés que des fans de n'importe quel autre artiste, parce que en fait le groupe qu'ils adoraient était brocardé à droite à gauche. Il y avait eu le fameux sketch des Inconnus.
Oui, on va revenir là-dessus. On a toutes les missions pour le faire. On a toutes les missions pour le faire.
La presse spécialisée qui leur tapait dessus en disant qu'ils étaient dépassés, ringards, etc. Donc ça a créé une espèce, vous savez, dans l'adversité comme ça, on se sent plus fort si on est plusieurs. Donc c'est à partir de là que ça s'est créé, cette espèce de sentiment commun qui nous amène aujourd'hui à remplir des stades avec des gens qui sont complètement fascinés et accrochés à ce groupe pour la vie, quoi.
Indochine en hommage à Marguerite Duras. Est-ce qu'on sait s'il l'a rencontré, Laurent?
Non, il l'a pas rencontré.
Dommage.
Mais oui, mais c'est son idole absolue. C'est-à-dire que Indochine,
parfois, faut pas rencontrer ses idoles.
Non,
en fait,
il faut jamais les rencontrer. Mais le nom Indochine vient de Marguerite Duras déjà, donc c'est pas rien. Et après, certains textes viennent aussi d'elle. Trois nuits par semaine, c'est l'amant qui dévore à sa sortie en 84. Il s'en inspire et ça donne cette chanson incroyable sur la première fois d'une jeune fille. Donc oui, Duras, c'est très important pour lui. Il y revient souvent.
Très bien, on va se retrouver dans un instant. On va revenir souvent, nous aussi, sur Indochine, puisque c'est de ce groupe dont on parle. On se demande d'ailleurs, je vous poserai la question bien plus tard, mais si Indochine c'est un groupe ou si c'est une personne aujourd'hui. La personnalité de Nicolas Sirkis, si singulière et si elle fédère, quoi. Hein, on a envie de le suivre. C'est dans un instant, avec vous sur l'antenne d'RTL.
RTL, jour J. Flavie Flamand sur RTL. Georgie.
On a du mal à les couper. Vous l'avez compris, on vous parle du groupe Indochine ce soir. L'occasion pour nous de regarder dans le rétroviseur. On file au début des années 80. Là, par exemple, on est en 1982-83, à l'heure où on mâchait du chewing-gum, quelles que soient les circonstances. On n'arrête pas dans votre documentaire, Laurent Alain Caron, de voir des images. Mais ils sont tous en train de mâcher du chewing-gum.
Oui, c'est vrai.
En interview, sur scène. Ça mâche, on dirait un troupeau de chameaux.
C'est une autre époque.
Non, mais c'est quand même un truc qu'on ne voit plus. Et à l'époque, en fait, avant on fumait sur les plateaux de télévision et à ce moment-là tout le monde mâchait son Hollywood chewing gum quoi.
C'est une époque, ils ont traversé les époques, mais les années 80 c'est le début.
Mais exactement. Jean-Éric Perrin, vous mâchiez du chewing gum vous dans les années 80?
Certainement oui, moi j'ai jamais fumé donc j'ai dû mâcher du chewing gum effectivement. Non, ça m'est passé.
On est d'accord que c'est passé de mode aujourd'hui, tu vois plus des gens mâcher du chewing gum comme ça.
C'est sûr.
C'est 80s, voilà.
Vrai,
donc le documentaire de Laurent Alain Caron, vous pouvez le retrouver donc en replay sur le site de France Télévisions. Jean-Éric Perrin, l'aventurier, c'est leur premier grand succès. Je voudrais qu'on parle de l'enfance des frères Sirkis, parce que ce sont des jumeaux, hein, Nicolas et Stéphane. Et en fait, à l'origine, ils étaient en Belgique, en fait, Jean-Éric.
En fait, ils ont beaucoup déménagé parce que ils ont bougé en suivant les affectations de leur père qui était un scientifique et donc il travaillait, je sais plus, dans des choses un peu atomiques, enfin des choses comme ça quoi. Donc ils se sont retrouvés effectivement un moment en Belgique. Il faut savoir aussi que on parle évidemment des deux frères Sirkis, mais il y a un frère aîné dans l'histoire. Donc en fait, ce sont trois frères et le frère aîné est le premier, comme toujours dans les familles, quoi, il y a un frère aîné, c'est lui qui apporte un petit peu le rock et la musique au cadet quoi. Donc effectivement, ils se retrouvent en Belgique et les deux jumeaux, l'un comme l'autre, sont un petit peu fâchés en règle générale avec la scolarité. Donc, ils se retrouvent en pensionnat.
Pensionnat de jésuites, hein, donc où ils sont un peu vissés là.
Oui, c'est pas la grande joie, quoi. Donc, effectivement, c'est le moment où on commence à trouver des exutoires dans la musique, dans les chansons.
Et dans le rock.
Ouais, et dans le rock en particulier, évidemment.
Voilà, parce qu'ils écoutent, en fait, des radios pirates.
Des radios pirates hollandaises.
Ouais.
Et c'est comme ça qu'ils découvrent une musique qui leur fait du bien, qui les fait sortir de leur quotidien un peu pesant du collège. Et ils se disent, mais c'est génial cette musique. Donc c'est une radio piratée. Hein. Ouais. Ils arrivent avec un petit poste à galène à écouter tout ça. Et ils se disent, mais nous on veut faire pareil, on veut faire de la musique. Et finalement, c'est pas si compliqué que ça, trois accords. Et c'est comme ça qu'ils ont l'idée de fonder un groupe.
Voilà, et ce premier groupe, en fait, il va s'appeler Les Espions. Alors, il faut dire qu'entre-temps, ils vont rentrer à Paris parce que les parents vont divorcer, donc ils vont suivre leur maman à Châtillon. Ils vont avoir un choc en découvrant la chanson française, et notamment Claude François, parce qu'ils passent des Stones à Claude François. Mais ils veulent faire de la musique. Et donc, à 20 ans, ils montent leur premier groupe, Les Espions. Et Indochine voit le jour en 1980. Comment ça se passe, en fait, Laurent Alain Caron, pour monter Indochine? Et ils vont en rencontrer d'autres
Ah oui, alors c'est-à-dire que il y a les deux frères Sirkis et en fait Nicolas va trouver Dominique Nicolas qui est un personnage central dans les débuts d'Indochine parce que c'est lui en fait qui va vraiment composer les musiques. Ils vont le trouver Nicolas va le trouver à une audition, ils vont sympathiser, ils vont devenir potes. Après il y a c'est compliqué comment ça naît un groupe, mais au final c'est ces trois-là avec Dimitri Bodianski qui vont former la base du premier Indochine au début des années 80.
Très bien, je voudrais qu'on écoute Nicolas Sirkis qui explique l'origine de son inspiration pour cette fameuse chanson L'Aventurier qui sera le premier gros tube d'Indochine.
J'étais encore machin de collégien, j'ai retrouvé dans ma bibliothèque tous les bouquins et donc j'en ai fait une sorte d'historique. Le titre s'appelait La Vallée Infernale, donc je m'ai égaré dans La Vallée Infernale. En fait, tu sais, ça a été un montage totalement fou. C'était pour se foutre un peu de la gueule de tous ces films où le mythe du héros invincible. On sortait de Rambo, tous ces trucs-là, le mec qui se prend 50 balles et qui arrive toujours à avancer. C'était un petit peu ce côté second degré.
Voilà, c'est le carton en fait inattendu et c'est ça qui va les propulser, Laurent Alain Caron.
Ouais, c'est un tube absolu, je crois que c'est l'été 83 où vraiment tout le monde écoute L'Aventurier, tout le monde danse sur L'Aventurier. C'est des sons nouveaux, des boîtes à rythme, un peu new wave, c'est totalement nouveau, on comprend pas trop ce qu'il dit et c'est ça qui fait aussi le succès du titre.
L'Aventurier propulse donc le groupe Indochine en orbite et alors qu'ils sont portés par un succès phénoménal et alors que la chanson est le tube de l'été 1983, Nicolas Sirkis va mesurer le défi qui les attend. Il déclarera, j'ai compris que le plus dur restait à faire. À tout de suite.
Égaré dans la vallée infernale, le héros s'appelle Bob Moran. À la recherche de l'ombre jaune, le bandit s'appelle
C'est une soirée spéciale Indochine sur RTL. Vous venez d'entendre L'Aventurier.
RTL, jour J avec Flavie Flamand.
De nos invités Laurent Alain Caron et Jean-Éric Perrin pour vous raconter donc le groupe Indochine. Ceux qui ont envie de connaître toute leur histoire peuvent regarder votre documentaire ou lire vos livres, Jean-Éric. Je voudrais qu'on s'attarde désormais sur ces textes qui collent tant à l'époque et qui parlent à ceux qui les comprennent. La chanson qu'on est en train d'entendre, donc là c'est Cowbang. On est en 84 et en fait Jean-Éric Perrin, cette chanson elle raconte quoi? Elle raconte une féminité qui est hyper offensive.
Oui, bah c'est un des thèmes de prédilection donc de Nicolas, qui a une écriture vraiment donc très particulière et qui a des thèmes aussi qui sont particuliers et qui résonnent beaucoup aujourd'hui effectivement avec ce qui se passe dans la société, heureusement depuis quelques mois, quelques années. Mais en ça, lui, il est totalement précurseur parce qu'en fait, au départ, la chanson est inspirée, est plus ou moins inspirée d'un livre, je crois, de la Sa Majesté des Mouches, avec une histoire de communauté comme ça créée par des enfants, par des garçons en l'occurrence. Mais lui, la transpose au féminin dans une communauté comme ça, donc de filles qui on connaît pas vraiment les tenants et les aboutissants, mais en fait il nous décrit un paysage comme ça, un territoire de filles qui ont pris un peu le pouvoir et qui se sont débarrassées du patriarcat, qui se sont débarrassées de toutes les contingences auxquelles elles sont confrontées en règle générale et qui vivent de façon très libre. On imagine un peu dans une île perdue, dans un endroit qu'on connaît pas, et c'est quelque chose qui a permis justement d'intéresser beaucoup les filles, un public féminin à Indochine et qui les ont suivies depuis, quoi.
La petite fille est une guerrière, elle joue à ce qu'il ne faut pas faire. Contre les dragons, elle frappe les yeux fermés, avec son sabre attaque les cavaliers. Si c'est pas d'époque ça, si ça colle pas, Laurent Alain Caron, à notre époque.
Ça colle totalement et c'est incroyable de se rendre compte à quel point les paroles mais de toutes les chansons des années 80 sont précurseuses, je sais pas comment on dit, ouais. d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la petite fille est une guerrière, elle joue à ce qu'il ne faut pas faire, c'est déjà la parité. On est dans ces années-là, la loi sur l'égalité homme-femme, Yvette Roudy, Nicolas Sirkis qui chante ça, et Christine and the Queen qui, dans le doc, nous parle de cette ivresse, de se sentir racontée. Voilà, il y a déjà ça, ce combat pour une féminité plus offensive.
Mais il y a aussi ça. Bay, encore la femme, hommage à un bar lesbien de Londres. Alors, c'est ce que j'ai découvert dans votre documentaire, Laurent Alain Caron. C'est une chanson qui a été censurée à la télé à l'époque, Jean-Éric Perrin.
Oui, c'est effectivement une des premières fois où le thème du lesbianisme est traité dans une chanson de rock pop. Ça n'avait jamais été fait jusqu'à présent, ou alors dans des milieux très, très fermés, quoi. Donc là, c'était assez surprenant qu'un groupe qui avait planté sa tente dans les hauteurs du top 50 depuis à l'aventurier, donc qui était vraiment partout. Faut se rappeler à l'époque il y avait une vraie Indomania, c'est-à-dire qu'ils étaient dans tous les magazines pour la jeunesse, dans toutes les émissions, enfin, ils étaient partout, quoi. C'était vraiment on mangeait du Indochine du matin au soir. Mais en général, les artistes comme ça qui sont très très médiatisés sont souvent assez fades, enfin en tout cas ne font pas vraiment de vagues. Et là, en l'occurrence, aller traiter le thème des filles qui s'aiment, qui sont ensemble, c'est quelque chose qui pouvait choquer un certain nombre de gens. Qui en tout cas était surprenant, d'où effectivement une certaine frilosité de certains médias de passer le relais à ce type de chanson.
Laurent Alain Caron.
La maison de disques est choquée. Elle veut carrément interdire la chanson. Enfin, il y a, je crois, sur l'album 3, à un moment donné, la maison de disques veut bien sortir Troisième Sexe, mais à condition qu'il y ait sur la face B une chanson plus cool, moins offensive. Bon, en fait, c'est 3 nuits par semaine, je crois, et en fait, elle ne l'est pas. Mais voilà, il y a vraiment toujours ce jeu avec la maison de disques, ce combat Nicolas Sirkis qui retourne toujours,
pas,
qui ne lâche jamais rien.
Cette chanson, elle marque aussi le look plus androgyne de Nicolas Sirkis. Est-ce qu'il y avait une influence The Cure un peu? Parce que c'est quelqu'un qui m'a dit, mais en fait, Jean-Éric Perrin, quelqu'un m'a dit, bah tiens, bah oui, Indochine, ils étaient influencés par The Cure à l'époque.
En fait, ce qui s'est passé, il y a une espèce de rivalité un petit peu entre les deux groupes à un moment donné qui s'est produite parce que, en fait, ils ont. C'est concomitant, en fait. En fait, Nicolas et Indochine étaient très influencés par ce qui se passait en Angleterre. C'est l'époque de Culture Club, c'est l'époque de tout ce qu'on appelait à l'époque les néo-romantiques. Donc, en France, on avait une image du groupe de rock où c'était quatre gars avec des perfectos, avec un air un petit peu méchant comme ça, qui descendent de leur moto, quoi. Il y avait une espèce de cliché comme ça qu'on attendait du groupe de rock. Et Indochine arrivait avec un look, avec une allure totalement différente, qui était directement inspirée des groupes londoniens, donc Culture Club, etc. Mais en fait, Cure, en même temps qu'Indochine, a décidé de se maquiller, par exemple, et donc du coup, les uns ont dit que c'était les autres qui les avaient copiés, etc. Mais en fait, c'est juste, ils ont eu à l'époque tous les groupes de Londres. Enfin, il y avait beaucoup de groupes à Londres. On se rappelle de Visage, de tous ces groupes-là, et c'était la façon de se présenter avec des vêtements comme ça très amples, très couture.
Gothique.
Et puis les garçons étaient maquillés, avaient des espèces de choucroute peroxydée. Enfin voilà, c'était très c'était quelque chose qui était courant à Londres, mais en France, personne connaissait ça encore.
On se retrouve tout de suite avec d'autres chansons expliquées et racontées par nos invités.
Même si on vieillit, même si on s'est marié, on a divorcé, on a eu des enfants, on a changé, il y a quelque chose de la jeunesse en nous, toute notre vie, et je pense que ce groupe la touche spécifiquement, de par les mélodies et de par la poésie des paroles.
Jusqu'à 2h sur RTL, jour J, la rediffusion.
sexe. C'était Indochine à la une de Jour J ce soir.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Qui ne connaît pas le groupe Indochine dont on parle ce soir avec nos invités qui aiment forcément le groupe? Enfin, vous avez réussi à me convertir à Indochine. Et j'ai tellement mieux compris grâce à vous, Jean-Éric Perrin et Laurent Alain Caron. Est-ce encore un groupe, je le disais, parce qu'il semble finalement que le groupe se soit réduit avec le temps à Nicolas Sirkis, une personnalité hyper attachante qui démontre surtout une préscience du monde qui l'entoure. On l'a dit, c'est lui qui écrit les textes. Je voudrais qu'on écoute un grand fan qui apparaît dans votre documentaire aux côtés d'autres comme Christine Anne Quince. C'est le créateur Olivier Roustin. C'est un fan donc d'Indochine. D'ailleurs, c'est lui qui signe les costumes.
Les costumes de scène de Nicolas Sirkis.
Exactement. On l'écoute parler de la chanson Troisième Sexe.
Ce que j'aime dans Troisième Sexe, c'est cette envie d'être libre. C'est ce combat pour être soi-même, en fait. Sans aucun jugement. Il y a un aspect réellement révolutionnaire. C'est plus qu'une chanson, et c'est ce que je dis sur Indochine, c'est que ce ne sont pas des chansons qu'ils ont créées, c'est des moments d'histoire. C'est les témoins d'une société. C'était au-delà d'un son, au-delà d'un rythme, au-delà d'une décibel, c'était une envie de créer un nouveau monde, un plus beau monde.
Ça, c'est la chanson totem de toute une génération et de ceux qui bien souvent se sentent bâillonnés par le monde qui les entoure, Jean-Éric Perrin.
Oui, c'est une chanson qui préfigure ce qu'on appelle aujourd'hui le gender fluid, c'est-à-dire c'est à cette époque-là, donc au milieu à peu près des années 80, Indochine et donc Nicolas Sirkis, a une espèce de préscience comme ça, de cette espèce de situation, disons, d'une partie de la population mondiale qui se refuse d'endosser en fait les contingences obligatoires d'un sexe ou de l'autre. Alors bon, dit comme ça, ça fait un petit peu philosophe de comptoir, mais c'est vrai que c'est quelque personne, en tout cas, n'avait jamais parlé de ça dans des chansons. Et aujourd'hui, on parle effectivement beaucoup de ça. Il y a beaucoup de combats entre différentes fractions politiques aux alentours de ça. Lui en a fait une chanson et qui effectivement était tellement unique en son genre, dans ce qu'elle racontait, dans cette volonté d'être libre, d'être soi-même, de s'habiller comme on voulait, de se maquiller ou de mettre du vernis à ongles si on était un garçon, de se couper les cheveux courts si on était une fille, et puis de se bagarrer dans la cour de récréation si on voulait aussi. Et ça, c'est quelque chose qui était effectivement révolutionnaire, comme dit Olivier Roustin. Personne n'avait jamais parlé de ça avant, et on a mis à peu près 20 ou 30 ans pour réaliser que c'était une réalité aujourd'hui.
Alors justement, on est obligé d'avancer, on pourrait passer des heures, mais j'invite vraiment nos auditeurs à regarder votre doc, hein, Laurent Alain Caron. Nicolas Sirkis, on le disait, c'est un visionnaire, il flaire, il respire le chaos du monde. En 2013, il y a une chanson qui va sortir, qui s'appelle College Boy, qui traite du douloureux sujet du harcèlement scolaire.
J'apprends d'ici que ma vie ne sera pas facile chez les gens. Je serai trop différent pour leur...
Et Laurent Alain Caron, avec cette chanson, en fait, il va aider toute une génération de collégiens et de lycéens que vous avez rencontrés aussi.
Oui, mais ce qui est fou, c'est que Nicolas Sirkis, il pressent l'époque, il en fait des chansons, et ces chansons rejaillissent sur l'époque et contribue à constituer l'époque. C'est ça qui est fou. Donc ça devient, comme dit Olivier Roustin, des moments d'histoire, presque. En tout cas, des pavés lancés dans la mare. Et cette chanson-là, oui, elle est incroyable. Et j'ai rencontré Erwan, qui est un jeune garçon incroyable, vraiment, et que je remercie encore d'avoir témoigné. Il a parlé de son harcèlement scolaire. Et il raconte comment cette chanson l'a aidé, comment cette chanson l'a même sauvé, puisqu'il l'écoutait le soir, avant de s'endormir, le matin. Et ça l'aidait à aller affronter ses harceleurs au lycée. Je trouve que c'est quand même magnifique. C'est une très belle histoire, et c'est ce que fait Indochine.
Et puis il y a aussi ça.
La vie est belle et cruelle à la fois. Elle nous ressemble parfois. Moi je suis né pour n'être qu'avec toi. La vie est belle, aussi belle que toi.
Alors maintenant que je l'ai écouté et que j'en ai écouté les paroles, Jean-Éric Perrin, à chaque fois, j'ai vraiment la gorge qui se serre. J'ai pleuré devant votre doc, hein, Laurent Alain Caron. Bah ouais, parce que c'est... Parce qu'en fait, cette chanson, La vie est belle, elle traite du cancer, Jean-Éric.
Oui, c'est ça. En fait, il y a des, en dehors des thématiques, enfin, de cette lutte contre l'homophobie qui est un cheval de bataille donc d'Indochine et de Nicolas depuis dans ses chansons depuis quasiment les origines. Il y a des thèmes comme ça aussi très très puissants et très dramatiques qui sont traités. Il y a donc dans les années 2000 après le gros succès de l'album Paradise, il y a un double album qui s'appelle Alice et June qui est influencé par un fait divers, donc deux adolescentes qui se sont suicidées et en se jetant d'une falaise, je crois. Enfin, c'est un fait divers réel, donc qui s'est passé. Et donc tout l'album traite de ça. Alors toujours avec la façon un petit peu cryptique, un petit peu à double ou triple lecture qui constitue l'écriture de Nicolas. Mais c'est aussi le malaise comme ça adolescent et quelque chose qui est complètement réel et qui est rarement traité, et donc ça a attiré encore plus que possible tout un public d'adolescents qui se reconnaissaient dans cette histoire dramatique, mais en même temps qui personne d'autre n'en parlait de ça, ce qui fait qu'Indochine à qui on accole souvent une image un petit peu légère, parce que bon là effectivement l'aventurier c'est un petit côté dessin animé, enfin un petit côté comme ça, mais les thématiques qui sont traitées par la suite sont très importantes et très graves souvent, et les gens, enfin le public qui prête pas une attention précise à ce que raconte le groupe et à ce que transmet le groupe passe à côté de ça, et c'est vraiment important quoi.
Et vous avez rencontré une jeune fille atteinte d'un cancer, et cette chanson l'a aidée.
Je l'ai rencontrée après un concert, je l'interviewais, et puis c'est sa mère qui me dit non mais elle te dit pas tout en fait, elle a une histoire etc. Donc je l'ai appelée, on s'est parlé, elle m'a raconté son histoire, elle souffrait d'un cancer, et elle aussi Indochine l'a sauvée, on peut pas dire ça, mais elle l'a nourrie pendant son combat, en écoutant les chansons d'Indochine avec sa maman, ça les a reliés. Et il y a cette force-là, je sais quand même, Indochine, c'est quand même pas rien, d'aider les gens. Il se met, Nicolas Sirkis, à la place de ceux qui souffrent. Ouais. Et ceux qui souffrent le savent, le sentent, parce qu'il a les mots justes.
Voilà, si l'on vient de démontrer en tout cas qu'Indochine a trouvé une place particulière dans la vie de ceux qu'il aime, Indochine a aussi traversé un désert. Alors, je sais que Jean-Éric Perrin va me dire, ouais, mais le public, il était toujours là. Oui, les super fans. Mais ça a quand même été difficile. Ça a duré 10 ans après le succès, un certain désamour. On connaît l'histoire, hein. Tu lèches, tu lâches, tu lynches. C'est ainsi, c'est la loi. Indochine n'est pas passé au travers, mais a aussi marqué une véritable renaissance. À tout de suite.
Jusqu'à 2h sur RTL, jour J, la rediffusion.
Demandez à la
J'ai demandé à la Lune, à Doshin sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, jour J.
Des fois, la presse est d'une violence où on parle du, on dénigre son public en disant que c'était des petites groupies de bacotis. Enfin, c'était d'une violence. J'en veux à personne. Je dis eux. J'ai bien noté leur visage. J'oublie pas.
Voilà, ça c'est un extrait de votre documentaire, Laurent Alain-Caron. Jean-Éric Perrin, on peut quand même dire qu'ils ont traversé un peu le désert pendant 10 ans à Indochine. Et quand on entend d'ailleurs Nicolas Sirkis, on comprend qu'ils s'en sont pris, pardon, mais plein la gueule.
Alors oui, ils s'en prennent plein la gueule, effectivement. En fait, c'est un désert plutôt médiatique qu'autre chose. Mmh. Parce que pendant cette période-là, donc comme je le disais tout à l'heure, les concerts sont quand même pleins, les disques se vendent quand même. C'est-à-dire qu'on dit que oui, c'est un groupe daté parce qu'on est dans les années 90 et qu'eux sont un groupe des années 80. Sauf qu'ils ont encore des disques d'or à une époque où il y a beaucoup de groupes de rock qui dont on parle beaucoup plus, mais qui aimeraient bien atteindre le statut du disque d'or. Donc voilà, c'est plutôt une espèce d'orage médiatique qui va être très long, qui vont traverser.
Il y a de la concurrence aussi, Laurent Alain-Caron. Pardon, je vous interromps, Jean-Éric, mais c'est pas simple. Mais il y a de la concurrence aussi, Laurent Alain-Caron.
Oasis, il y a Noir Désir.
Il y a Noir Désir aussi.
Mais c'est vrai qu'ils font des albums qui sont canons. Il faut les réécouter, les albums de l'époque, ils sont vraiment bien. Donc c'est vrai qu'ils continuent.
C'est la presse qui les lâche, c'est le public.
Ils sont lâchés, ils sont passés de mode pour la presse. La presse en veut plus. Ça a tourné. C'est hyper violent. C'est la fin des années 80. Ils ont peut-être trop marqué leur époque dans les années 80. Et les années 90. Voilà, c'est de nouvelles années, on a envie d'autre chose, et ça tourne.
Et l'Estocade sera portée par un trio d'humoristes dont on ne cessera d'aimer l'humour, mais qui, ce jour-là, très inconsciemment sûrement, je pense parce qu'ils devaient écouter eux-mêmes Indochine, a alimenté le rejet d'Indochine à une période, c'était les Inconnus.
Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus.
Alors, Jean-Éric Perrin, évidemment c'est référence à tes yeux noirs d'Indochine, mais en fait, moi j'avais pas mesuré que ça aurait pu à ce point participer finalement du rejet d'Indochine. Moi ça me faisait marrer à l'époque.
Le vrai fond de l'histoire, c'est que en fait, c'est en tout cas ce qu'ont prétendu plus ou moins aussi les Inconnus aussi. En fait, ils ont voulu parodier un autre groupe de l'époque qui a été très fugace, qui s'appelait Partenaire Particulier, qui
chantait. Tellement c'est pas pareil.
Voilà. En fait, ils ont surtout singé la façon de danser qui était assez robotique, qu'avait Nicolas dans les clips et à la télé, mais qui était un peu la façon de l'époque. Moi, j'ai revu entre-temps, après le doc, j'ai revu sur YouTube des vidéos de Lio, par exemple, quand elle chante le Banana Split, elle danse exactement pareil.
C'était
cette façon de danser un petit peu.
Attends,
voilà,
on dansait comme ça, nous aussi, en boîte.
Comme ça,
on mâchait du chewing-gum et on dansait comme ça, quoi. C'est clair. On était déjà tous comme ça. Mais c'est vrai que on l'entend, Nicolas Sirkis, il l'avait en travers de la gorge. Il vous l'a dit dans le documentaire. C'est
plus en travers de la gorge. Il dit carrément, je me souviens encore des visages et je n'oublierai pas des critiques. Non, ça a été hyper violent pour lui. Il a très, très mal vécu.
Dans le même temps, le groupe, il va se déliter. Alors là, c'est pareil, on va aller un petit peu vite, mais ça commence à devenir compliqué, quoi, finalement.
Oui,
quand on n'est pas porté par
autres.
Ça
devient compliqué. Il y a ça se reforme, ça s'en va. Mais c'est vrai que c'est une période compliquée.
Et puis, on peut pas oublier non plus le drame qui aura marqué la vie du groupe Indochine. C'est Stéphane, le jumeau de Nicolas Sirkis, qui va se réfugier dans la drogue, Jean-Éric.
Il n'est pas le premier à le faire. En fait, le délitement du groupe, c'est quelque chose qui est lié... on voit bien ça, d'ailleurs, dans le documentaire, parce que là, on parle de Indochine et la France, mais il faut savoir qu'il y a eu, et ce qui n'arrive jamais, un succès réel en Scandinavie et au Pérou, ce qui est assez improbable.
Oui, c'est vrai.
Je les ai accompagnés au Danemark, et effectivement, j'ai vu ça de mes yeux. Je ne suis pas allé au Pérou, mais je suis allé en Scandinavie, et c'est vrai que là-bas ils pouvaient pas mettre un pied dans la rue, quoi. Il y avait des fans partout.
Et qu'est-ce qui se passe, Laurent Alain-Caron, entre les deux frères, en fait, parce que on a le sentiment que Stéphane, quand on regarde votre documentaire, c'est un petit peu retrouvé dans l'ombre de son grand frère, enfin de Nicolas. Enfin, je dis son grand frère, ils étaient jumeaux, mais Nicolas qui était devant, qui chantait, qui avait un charisme de dingue, qui écrivait les paroles. Enfin, c'est pas facile. C'est
probablement oui, ce qu'il a dû ressentir. Mais c'était pas facile. En effet, c'est ce que dit Jackie Jakubowicz du Club Dorothée, mais pas seulement, ancien attaché de presse de Serge Gainsbourg. Il raconte ça dans le doc. Il dit oui, Stéphane, il avait aussi peut-être d'autres velléités, mais en même temps, Nicolas, c'était le leader, donc c'était comme ça, c'était le dispositif. Après qu'il l'ait mal vécu, probablement.
Ouais, et ça n'a pas aidé les choses. Donc on l'a dit, Stéphane en fait sombre dans la drogue, et on le retrouvera mort donc en 1999. On écoute Nicolas Sirkis.
J'ai trouvé ça tellement injuste, et on peut pas dire grand chose parce que c'était à un moment donné, quand on essaye de sortir quelqu'un de son addiction et de voir qu'il en a pas envie, c'est soit lui, soit nous. Et donc à un moment donné, le choix il est fait d'une façon implacable.
Et voilà Nicolas Seul aussi, hein, Laurent Alain Caron.
Nicolas Seul, c'est quand même incroyable quand on y pense. De se dire que bah là, il est vraiment tout seul avec son groupe. Il n'y a même plus de groupe, en fait.
Ouais.
Donc, il va falloir... en fait, il lâche rien, il continue à rien lâcher. Et il dit Indochine survivra, parce que Stéphane voulait que le groupe survive.
La renaissance, quelques années plus tard, viendra en partie d'un monsieur au talent dingue. Il s'appelle Mickaël Furnon, du groupe Mickey 3D.
Moi, je me suis juste mis à faire trois accords comme ça. Et le texte est venu très vite. Hein. Et le soleil ne le sait pas.
RTL, jour J.
C'est l'un des derniers grands succès d'Indochine et c'est sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Jour J.
J'ai demandé à la lune
sait pas. Je lui ai montré mes brûlures et la lune s'est moquée de moi.
C'est donc avec cette chanson qu'Indochine va renouer avec le succès. Le groupe Indochine qui s'est reformé entre-temps, formé autour de Nicolas Sirkis, qui va flairer, qui va piger en fait qu'il faut à un moment donné s'ouvrir, Laurent Alain Caron, et aller voir ce fameux Michael Furnon du groupe Mickey 3D, qui, on l'a entendu il y a un instant, gratté sur sa guitare, était en train de créer l'un des plus gros succès du groupe.
Et grand bien lui en a pris, puisque en effet, il va aimer la chanson, alors il va la retravailler beaucoup.
Il aura du mal, même.
Il n'arrive pas, en fait. À partir de la maquette initiale que Michael Furnon lui envoie, il n'arrive pas. Même le groupe, à un moment donné, lui dit non, faut lâcher.
Mais tout le monde lui dit de lâcher, il ne lâche pas.
Tout le monde lui dit de lâcher, parce que l'album est assez rock et la chanson ne l'est pas. En tout cas, il ne veut pas qu'elle le soit. Et donc, mais il ne lâche pas, il y va, il continue, et puis finalement, il continue à l'imposer, même auprès de la maison de disques, hein, qui dit non, ce serait une phase B. Et ben lui, non, il dit non, et voilà, c'est le tube de l'album.
Et en fait, il y a un truc de dingue aussi, Jean-Éric Perrin, c'est que cette chanson-là, en fait, alors attends, elle est sortie en quelle année ?
On est en 2002, je crois.
C'est l'album 2002, Paradise.
Voilà. Alors donc, en 2002, il y a des jeunes qui découvrent cette chanson. Et en fait, cette chanson va être la porte d'entrée sur toutes celles qui l'ont précédée. C'est pour ça qu'Indochine, aujourd'hui, quand tu vas dans un concert, en fait, on retrouve tout le monde, quoi. On retrouve les parents, peut-être même les grands-parents, les petits-enfants. Et c'est en ça qu'Indochine a marqué une renaissance qui est assez inédite, je dirais, Jean-Éric Perrin, dans le paysage du rock.
C'est le seul groupe de rock, et là, je parle même à l'international, parce qu'on veut dire les Rolling Stones, ils sont aussi là depuis encore plus longtemps, mais Indochine, c'est le seul groupe donc, qui remplit des stades avec des strates d'âge totalement différentes. Et ça, c'est uniquement parce qu'ils ont continué donc, à avoir du succès, à sortir des albums, et à jouer leurs albums plus les anciens tubes, alors que les vieux groupes qui se reforment ou qui reviennent nos affaires, par exemple, pour citer l'autre grand groupe de rock français, Téléphone, quand ils se sont reformés sous le nom des Insus il y a quelques années, ils ont fait une tournée comme ça, mais ils jouaient que leurs vieux tubes. Ils ont pas joué de nouveaux morceaux ou même dans un autre genre, quand NTM s'est reformé pour faire c'est des vrai. Bercy, etc., ils jouaient pareil, un répertoire qui avait 10 ans, 15 ans. La différence, c'est qu'Indochine a toujours un nouvel album à défendre, et donc dans ses tournées, défend son nouvel album et effectivement ajoute, parce qu'on ne peut pas imaginer un concert d'Indochine sans l'aventure. Sans Kaoban, etc. Ouais. Donc, vous avez des gens qui, au concert d'Indochine, vous avez dans le fond des gens qui ont 50 ans, et puis un peu au milieu des gens qui ont 40 ans, et puis des gens qui ont 30 ans, et puis juste devant, vous avez des gens qui ont 14 ans et qui ont adopté le groupe avec le dernier succès qu'ils viennent de découvrir, qui est sur le dernier album. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui est totalement unique.
Et c'est vrai, Laurent Alain Caron, que du coup, ça crée du lien, je dirais, entre les générations. Et il y a quelque chose aussi qui m'a touchée, c'est qu'on le disait, les concerts d'Indochine, ce ne sont pas des concerts, ce sont des communions. Il y a quelque chose vraiment dans le public qui se passe entre les gens, entre Nicolas Sirkis et ceux qui viennent le voir, et avec un Nicolas Sirkis qui en plus s'adresse à son public et à tous les publics. Il tient à ce que tout le monde puisse venir voir les concerts.
Oui, notamment grâce au prix des places qui est pas cher, et c'est pas rien, c'est vraiment important, et c'est aussi
et que tout le monde puisse entendre.
Exactement, et du coup il y a trois générations de fans qui viennent, qui se précipitent à ces concerts, et c'est vraiment incroyable, c'est une expérience, les concerts sont absolument incroyables, faut vivre ça c'est différent des autres concerts, je sais pas à quoi ça tient, je pense à tout ça, à tout ce qu'on a dit, mais c'est très particulier.
Et il a des obsessions techniques aussi pour que tout le monde entende, c'est-à-dire que même si ceux qui sont tout au fond du Stade de France ont payé leur place moins cher, il faut qu'ils puissent entendre de la même façon que ceux qui seront plus près, quoi.
Et pour les 40 ans, il y a ce dispositif qu'il a voulu de la scène centrale pour que tout le monde voit, une sorte de démocratie musicale comme ça.
Ouais. Il y a quand même un truc, Jean-Éric Perrin, moi, qui m'épate, alors je ne sais pas comment il fait, vous allez me le dire, mais c'est qu'il ne vieillit pas, Nicolas Sirkis. C'est-à-dire qu'il est toujours aussi bombesque.
Je pense qu'il est... Il a 65 ans, oui, quelque chose comme ça, oui. En fait, il est mu par son projet, parce que il faut totalement s'enlever de l'idée, l'aspect un peu romantique du groupe de rock, etc. En fait, Indochine, c'est une entreprise. Les musiciens sont des salariés. Et Indochine, c'est pas seulement un groupe qui fait des chansons et qui les joue sur scène pour faire plaisir à des fans. Mmh. C'est une série d'entreprises. C'est-à-dire qu'il y a un studio d'enregistrement d'Indochine. Ils ont leur propre édition
d'édition, ils ont leur propre label de disques, ils ont leur propre société de tourneurs, c'est-à-dire qu'en fait, ils font des collaborations avec des gros tourneurs, mais les spectacles faramineux qui produisent comme ça dans les stades sont produits par le groupe. Donc en fait, Nicolas est au cœur de tout ça, donc c'est un véritable démiurge, il est à la fois le créateur, le chanteur, et c'est lui qui a tous les concepts visuels, mais en même temps, il dirige toutes ces entreprises, et il n'y a pas d'autre exemple aussi. En fait, si on devait comparer un peu, faire une comparaison qui serait un peu pertinente, Indochine, c'est un peu Taylor Swift avant la lettre, quoi. C'est quelqu'un qui a pris en main sa carrière d'une façon à 360 degrés, quoi.
Eh bien, en tout cas, je vous remercie l'un et l'autre. Et effectivement, vous parliez du public, et quand ils viennent à RTL, il y a une sorte de marée humaine devant RTL, bien plus que quand j'arrive le matin, je peux vous le dire. C'est pas du tout la même chose, ni la même hystérie. Jean-Éric Perrin, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur Indochine, le dernier en date étant l'intégrale d'Indochine aux éditions EPA. Merci beaucoup, Laurent Alain Caron.
Merci à vous, Flavie.
Merci d'être venu. Votre doc, c'est Indochine, une révolution musicale, et je vous remercie infiniment parce que vraiment, ça m'a permis de comprendre et d'apprécier et de mesurer l'importance de ce groupe. Je le conseille à tous ceux vraiment qui sont avec nous ce soir. C'est en replay sur France.tv. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de Jour J, Céline Bonnet, Quentin Azoula, Bastien Robin et Marc Bisset. Je ne sais pas pourquoi je dis comme ça. Je vous souhaite une très bonne soirée sur RTL.
L'Indochine, il restera quoi ? J'en sais rien. Je m'en foutrais, je pense, parce que je ne serais plus là. J'ai toujours pensé que mes chansons étaient intemporelles.